Léa Salamé, 7h48, votre invité ce matin est ancien ministre des Affaires étrangères.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est l'image qui a saisi d'effroi l'Amérique et le monde. Des enfants séparés de leurs parents à la frontière mexicaine et enfermés dans des cages. Finalement, Trump a fait marche arrière la nuit dernière. Il renonce à séparer les enfants des parents. Mais tout de même, qu'est-ce que ces images saisies, non pas en Afghanistan ou en Corée du Nord, mais au cœur de la démocratie américaine, qu'est-ce qu'elles disent de la crise de l'Occident ?
C'est plutôt la crise qui découle des mouvements migratoires, parce qu'on pourrait trouver des phénomènes de ce genre en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en Australie, dans tous les endroits où il y a une gigantesque pression migratoire qui va pas s'arrêter. Je parle même pas des demandeurs d'asile de la part de gens vraiment en danger et qui relèvent vraiment de l'asile au sens des préambules de 46 ou de 58. Je parle seulement des pressions migratoires. C'est tellement fort, surtout quand c'est rapide, massif, en peu de temps, que vous aurez des phénomènes de ce genre terrifiants. On peut faire des reportages sur ce que négocient les Australiens pour mettre les gens dans des centres de regroupement au Cambodge, des choses comme ça. Donc l'image à l'instant T est toujours intolérable. Mais la réaction aux images intolérables ne fournit en général aucune solution.
Oui, je reconnais votre réalisme ici, mais tout de même, c'était... L'image, elle est saisissante.
Parce qu'on a une image trop simpliste des États-Unis à ce moment-là, puisque vous parlez de la réaction à l'image des États-Unis. Bien sûr, les États-Unis, c'est un pays également violent, hein. À tout point de vue, c'est le fameux mur sur lequel on discute énormément entre les États-Unis et le Mexique. Il existe aux trois quarts déjà par rapport à ça. Donc il y a toujours une brutalité américaine qui est inhérente à cette société. En plus, il y a le tempérament de Trump qui prend des décisions violentes et brusques. Il fait pas n'importe quoi, il n'est pas imprévisible. Hein. Il est même de plus en plus tragiquement
cohérent.
Prévisible, on va dire. Il est cohérent par rapport à ce qu'il a dit dans sa campagne, il est cohérent par rapport à son électorat. C'est pas du tout sûr qu'il perde aux élections du mid-term en novembre prochain, et c'est encore moins sûr qu'il ne soit pas réélu, vous voyez.
Mais c'est ce que j'ai envie de vous demander.
C'est un visage de l'Amérique.
Il est critiqué, vilipendé, raillé
ailleurs.
Par l'Europe ou par les journaux de Washington.
Par les gens de Californie ou de la côte Est.
Oui. Voilà, mais au fond...
Plus que vilipendé, il y a une sorte de révolution.
Ouais, mais au fond, et c'est une question volontairement provocatrice, est-ce que Donald Trump ne serait pas lui dans le sens de l'histoire ?
Non, j'irai pas jusque-là parce qu'il n'a pas de solution générale, il n'a pas de solution globale, il cherche pas à en avoir, mais il n'est pas exclu qu'il ait une influence globale en dehors des sujets où il peut avoir des résultats concrets, des sujets où il va se planter aussi, il y en a. Il peut avoir une sorte d'influence psychique collective, puisque dans le monde depuis 45, c'est quand même les États-Unis qui incarnaient une sorte de surmoi collectif où même les dictateurs ou les despotes faisaient semblant de travailler à l'amélioration du monde en général. Bon, lui, il fait pas du tout semblant de quoi que ce soit. Et donc, c'est brutal, c'est direct. Il n'est pas du tout isolationniste. Il est brutal, unilatéraliste. Et donc, ça peut inspirer des tas de gens dans le monde. Il y avait certains autres dans le monde qui étaient déjà comme ça, mais ça n'avait pas la même influence globale. Dire que c'est le sens de l'histoire, non, précisément, parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde que ça inquiète, beaucoup de dirigeants que ça inquiète, beaucoup de peuples qui sont pas d'accord. Mais là, ça dépend beaucoup de la capacité des autres. Les Chinois n'ont pas cette pratique, même s'ils sont eux-mêmes durs, hein, sur beaucoup de plans. Les Européens espèrent désespérément être capables de opposer une autre approche.
Oui, enfin d'accord, mais quand on voit le tweet d'avant-hier de Donald Trump qui soutient l'Italie de Salvini et le ministre de l'Intérieur allemand, on peut s'imaginer qu'il y a un nouvel axe qui est en train de se former et que l'influence
non, c'est pas
de Trump
arrive...
Ça,
puis le lendemain même, il ne se rappelle plus de ce qu'il a dit là-dessus. Mais non, ce qui est évident, c'est qu'on va partout vers une maîtrise des flux migratoires, beaucoup plus. Donc l'angélisme européen qui remonte au début de Schengen dans les années 80, où on va abolir les frontières internes et jamais se préoccuper des frontières externes parce que c'est méchant, c'est cruel, et puis on ne sait pas où les mettre, puis ça coûte cher. Bon, toute cette espèce de mentalité, elle est pulvérisée. Donc il va y avoir à peu près partout, mais encore une fois, regardez également les pays d'Afrique. Regardez les débats en Afrique du Sud sur le sujet, où les journaux sont pleins d'articles, comme quoi l'Afrique du Sud est envahie par les gens de Somalie ou de je ne sais où. Donc on va partout vers une maîtrise des flux migratoires, ça ne veut pas dire fermeture, mais une maîtrise.
Quand vous entendez Salvini qui
c'est
dit...
la seule condition d'ailleurs pour sauver l'asile. Pour sauver l'asile. S'il n'y a pas une vraie maîtrise des flux migratoires, notamment à l'échelle Schengen, un Schengen renforcé, dans quelques années, moi je vous dis, il n'y a même plus d'asile en Europe.
Mais quand vous entendez Salvini qui veut un fichage des Roms, qui veut un nettoyage de masse rue par rue, quartier par quartier...
C'est le résultat de 20 ou 30 ans d'inefficacité, d'incurie et de déni de ces questions. Il y a quand même énormément de gens, des milliers de gens tous les jours qui ont dit c'est affreux de penser ça, hein, c'est atroce, raciste, xénophobie, nanana. Bon. Et au bout d'un moment, les peuples cachent tout parce qu'ils disent nous on veut tout simplement que ce soit un peu contrôlé. Donc je ne dis pas que c'est bien, c'est pathologique, on peut le dire comme ça, mais c'est le résultat d'une incurie. Si on arrive à une vraie maîtrise des flux, co-gérés avec les pays de départ et de transit. Puis la question des Roms, c'est encore différent, parce qu'ils sont au sein de l'Union européenne. En général, ils viennent des Balkans le plus souvent. Progressivement, vous feriez baisser le pourcentage des vrais anti-européens, des vrais allergiques, des vrais extrémistes, ce qu'on appelle les populistes. Mais le populisme, c'est simplement la marque de l'incapacité des élites à convaincre
donc
les gens à
continuer. Donc vous pensez que dès lors qu'on maîtrisera les flux migratoires, les populistes vont mourir
Non. Il y aura toujours une partie des gens qui ne seront pas contents. Dès lors qu'il y a des peuples, il y a un risque de populisme. Donc il y a qu'au Vatican, il n'y a peut-être pas de risque. Bon. Donc je ne dis pas que ça va disparaître, je dis que ça peut être tenu, ça peut régresser, ça peut être contenu, à condition qu'on prenne le sujet, qu'il n'y ait pas de déni sur l'islamisme, qu'il n'y ait pas de déni sur la question des coexistences démographiques très compliquées à gérer entre, par exemple, l'Afrique du Sahel et d'autre part l'Europe. Enfin, il y a une approche d'ensemble avec des aspects très généreux, des aspects très rigoureux. On ne va pas y échapper.
Le magazine allemand Bild s'est interrogé en une il y a deux jours. Mais qu'arrive-t-il à l'Allemagne? Ses trois piliers vacillent. L'automobile avec le patron d'Audi qui est en prison. La politique avec la chancelière allemande Angela Merkel qui est fragilisée. Et le foot avec la Mannschaft qui est battue. Alors, je ne vous pose pas la question sur le foot, mais sur la politique. Qu'arrive-t-il à l'Allemagne?
L'Allemagne est toujours l'Allemagne, ce qui sidère plein de gens qui pensaient que les peuples européens allaient se fondre dans une sorte d'ensemble généralisé. Vous savez, l'Europe, qui est un mot valise typique. Or, le général de Gaulle avait raison. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Donc, les nations sont toujours là, simplement. Ce qu'il faut sans arrêt dire, c'est qu'elles peuvent coopérer, agir ensemble. Au-delà des intérêts nationaux, il y a des synthèses intelligentes que permet la mécanique européenne. Mais dans ce contexte-là, l'Allemagne est toujours l'Allemagne, la Finlande est toujours la Finlande, la Grèce c'est la Grèce, etc.
Et l'affaiblissement d'Angela Merkel, ce qui se joue à l'intérieur, affaiblit dans sa coalition, au sein même de sa coalition.
Oui, mais je suis même étonné qu'on ne le voit que maintenant, parce qu'elle était réélue sur une base tout à fait fragile. C'est sans doute le mandat de trop. Et puis, d'une certaine façon, elle n'y peut rien. C'est lié à une évolution de la politique intérieure. Sa politique, saluée comme généreuse au début, a quand même réveillé l'extrême droite. Il faut répondre à l'extrême droite par des mesures de contrôle qui soient humaines et sérieuses, mais qui existent quand même. Il y a toute une espèce d'enchaînement qu'on pouvait prévoir.
Donc ça ne vous étonne pas ce qui se passe?
Ça ne m'étonne pas tellement. Dans ce contexte, je trouve ça pas mal qu'elle ait donné quand même un petit signe à Emmanuel Macron en acceptant de prononcer le mot de budget européen, ce qui est un sacrilège pour l'ensemble du système allemand qui ne veut pas du nom de transfert et compagnie.
Ouais,
il y a des petites avancées.
Qui est actée, mais qui n'est pas chiffrée.
C'est vrai qu'elle est très affaiblie, mais on ne voit pas de solution claire de remplacement. Donc l'Allemagne, à son tour, devient un pays qui est gouverné par une coalition fragile, comme c'est le cas de presque tous les pays européens, sauf la France, qui a un système, des institutions particulières.
Presque tous les pays européens, vous dites, Hubert Védrine, vous avez été à l'Élysée longtemps auprès de François Mitterrand, puis vous avez été ministre des Affaires étrangères. À quel moment l'Union européenne a raté le coche? Pour me permettre un langage pas très châtié, à quel moment ça a déconné pour qu'on en soit là aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs phénomènes. Il y a la question de l'élargissement, on en parle toujours en France. Mais en fait, tous les pays d'Europe étaient pour l'élargissement, tous les pays voulaient entrer. Il y a eu 15 ans de négociations, on ne pouvait même pas les faire entrer quand ils étaient prêts. Je ne parle pas de la question turque, parce qu'on peut débattre, il y a des arguments dans les deux sens. Mais je parle des 15 autres, vous voyez, par rapport à ça. Non, pour moi, et personnellement, ça m'avait beaucoup frappé dans ma réflexion personnelle, c'est le moment de Maastricht. Donc, c'est très vieux, on est en 92. Toutes les autorités, tous les gens qui ont de l'autorité intellectuelle, morale, politique, etc., etc., sont pour le oui. Pour le oui. Et finalement, le oui passe avec 1,5 point d'écart. Donc déjà en France, en 92, alors que la mondialisation était beaucoup moins avancée, beaucoup moins enrichissante, beaucoup moins perturbante, il y a 48,5%
des gens. Donc ça a déconné dès 92.
Et donc 2005. Donc il faut qu'il y ait un compromis entre les élites et les peuples. Il n'y a pas d'autre solution.
Merci Hubert Védrine d'avoir été avec nous ce matin. Je ne sais pas si on est rassuré davantage en vous écoutant ou pas.
Non, je crois pas.
Dernier livre Paris, Compte à rebours chez Fayard. Merci à vous et belle journée.
Merci Léa, à tout à l'heure.